RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, discussion et débat avec les GG, avec les grandes gueules, avec Elina Dumont, intervenante sociale, avec Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, avec Zora Bitton, cadre de la fonction publique. Discussion et débat tout à l'heure à 11h20 autour de ce professeur de collège qui s'est fait gifler et menacer de mort par un élève à Toulouse. L'élève a été placé en garde à vue. Enfin, l'élève s'est quand même levé, a giflé son prof à 4 reprises. Il l'a plaqué contre le mur. Ensuite, sur les réseaux sociaux, il a dit « mais je vais le fumer », etc. Il a fallu que la police intervienne, que l'élève soit interpellé, que le rectorat se saisisse de l'affaire. Bref, venez commenter ça tout à l'heure avec nous à 11h20. En attendant, on est sur le cas de Madame Mathilde Panot, la France Insoumise, qui dénonce des délits d'opinion, qui estime qu'on veut les museler après l'annonce de la convocation par la police de Rima Hassan, qui est 7e sur la liste européenne, de Mathilde Panot, la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, pour apologie du terrorisme. Il s'agit en fait, vous savez, du communiqué qui a suivi l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre contre Israël. C'est Cyril qui va en parler avec nous, il nous appelle du Var. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Bonjour, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est justifié ou pas?
Non, mais là, enfin moi, à un moment donné, c'est pour ça que j'ai appelé, parce que j'en ai marre, en fait, d'entendre toute la journée la LFI, c'est des ils sont antisémites, la LFI, ils sont si. Alors moi, je le dis en deux mots, voilà, je suis de religion juive, donc je suis juif, hein. Ma grand-mère a fait les camps de concentration, donc je suis, voilà, au niveau antisémitisme, je pense que je sais ce que c'est, voilà. Alors après, je dis absolument pas que la LFI est Mathilde Panot notamment, n'a pas fait de conneries. C'est-à-dire que ce communiqué, pour moi, c'est une grosse bêtise. Voilà, d'avoir fait ce communiqué-là, c'est une bêtise. Effectivement, le lendemain de ce qui s'était passé, c'était une grosse bêtise, il fallait pas faire ça. Maintenant, faire passer toute la journée la LFI pour des antisémites, à un moment donné, il faut arrêter. Enfin, moi, je partage pas mal d'opinions de la LFI, et on peut pas me dire que je suis antisémite. Enfin, au bout d'un moment, on a l'impression que la LFI, maintenant, c'est le nouveau diable, et que c'est pire que le RN. Enfin, quand j'entends Zora souvent à l'antenne ou d'autres personnes, enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. Enfin, voilà. Et ils défendent quelque chose qui, si on regarde, on essaie d'être un petit peu objectif, ce qui c'est pas totalement faux non plus par rapport au régime de Netanyahou, par rapport à plein de choses, mais encore une fois, à quel moment il y a apologie du terrorisme dans ce qu'avait dit Mathilde Panot, ou c'est des antisémites? Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter avec tout ça. Ils défendent une opinion, on peut être pour, on peut être contre, ça c'est, voilà, chacun a son avis, mais de à chaque fois ramener l'antisémitisme derrière ça, ça joue contre, en fait, c'est-à-dire qu'on fait passer pour de l'antisémitisme tout et n'importe quoi. Donc on a à un moment donné, il faut arrêter. C'est comme quand on parle de Rima Hassan, moi personnellement, je la connaissais pas, cette dame. Donc effectivement, j'ai entendu les polémiques par rapport à Rima Hassan, etc. J'ai écouté ce qu'elle dit, en fait. Est-ce que vous avez écouté ce qu'elle dit? Est-ce qu'à un moment donné, elle est antisémite, cette dame? Enfin, moi, je l'ai écoutée, et à aucun moment, et pourtant je suis juif, j'ai vu de l'antisémitisme dans ce qu'elle dit, en fait. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Qu'on soit contre la LFI, je l'entends tout à fait, mais de les faire passer pour des antisémites d'un côté, et maintenant, c'est presque le RN de l'autre côté qui est respectable, et qui se fait passer pour respectable avec tout ce qu'ils ont défendu, avec tout
non,
ce
non, qui c'est ni le RN ni LFI, hein.
Ah ben tant mieux, mais c'est très...
Mais là, c'est parce que vous n'écoutez pas les juges, parce que à quel moment on peut combattre les idées des LFI en étant au RN? On peut combattre les deux.
Et sauf que ces derniers, depuis ces tragiques attaques et ces attaques terroristes du 7 octobre, effectivement, ce qu'on entend, c'est que la LFI, c'est le diable. Alors, et c'est les méchants.
Attendez Cyril, simplement, puisque vous êtes là, vous dites, écoutez, moi j'en ai un peu assez, qu'on tape sur Mathilde Panot, sur la France Insoumise. Juste, est-ce que vous êtes d'accord?
Après, je soutiens pas.
Non, mais attendez Cyril, venons-en simplement au fond, juste sur le fond. Est-ce que vous êtes d'accord avec le communiqué qu'il s'agit d'une offensive armée de forces palestiniennes contre l'occupation israélienne? Parce que c'est
alors,
ça.
Moi, je pense personnellement que d'avoir fait ce communiqué le jour de l'attaque était une grosse erreur et une grosse bêtise. Maintenant, c'est un sujet très compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire il y a du
parce
blanc et il y a du noir.
L'apologie du terrorisme, elle est là, c'est ce qu'on dit.
Non, j'arrive pas à vous suivre, moi, Cyril. Du terrorisme, pour moi, il n'y a pas d'apologie du terrorisme dans le sens où, à aucun moment.
Gaza est occupé, Cyril? Gaza est occupé, Cyril?
Ah ben,
mais ça, c'est...
Comment, non mais factuellement, la réponse.
Comment appelez-vous ce qui se passe en Palestine en ce moment? Est-ce que vous trouvez ça correct?
Non, mais le 7 octobre, c'est vrai, Gaza n'était pas occupé.
Voilà,
mais,
merci.
Là où je n'arrive pas à vous suivre, moi, Cyril, c'est qu'à un moment donné, cette importation du conflit, parce que LFI, ils font ça systématiquement, cette importation du conflit qui consiste à faire croire que le Hamas, c'est des résistants et Netanyahou et Tzal, c'est des nazis, je pense qu'elle contribue aussi à ce que des jeunes qui sont nés en France, comme Mera, comme les Ferrer Kouachi, passent à l'acte. Parce que on distille dans la société française un discours où on importe ce conflit et on fait passer un discours comme quoi les bons résistants c'est le Hamas et les méchants dictateurs et occupants c'est l'Israël. Et je pense que cette façon de faire est dangereuse.
Oui, non, mais je suis pas d'accord avec tout ce que dit LFI. Par contre, là, vous dites, la LFI fait ça, mais de l'autre côté, ben, on croit aussi que Benjamin Netanyahu, c'est un grand gentil, c'est un grand humaniste, et que les méchants, c'est les Palestiniens.
Mais moi, je suis contre la politique.
Non, mais là, je crois qu'on s'éloigne, excusez-moi, on s'éloigne du débat. Le débat n'est pas de savoir qui a raison ou tort. Le débat est de savoir.
Pardon. Je répondais.
Moi, je voudrais savoir si Cyril est d'accord avec les propos écrits par Rima Hassan.
C'est pas le problème.
Qui reprend la charte du Hamas.
Attends.
Et qui veut la destruction d'Israël et qui l'a écrit.
Madame Rima Hassan.
Non, pas écouté, parce que vous avez lu tous les tweets qu'elle a fait, qui reprennent clairement, de la mer au Jourdain. Et qui sont.
Moi, si vous le dites, je peux vous croire.
Mais c'est écrit.
Je les ai pas vus. Maintenant, je l'ai écouté. Il faut aussi écouter ce que disent les personnes. Moi, quand je l'ai écouté, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'effectivement, les actes du 7 octobre, c'était des actes terroristes. Voilà.
On a un petit souci avec la ligne de Cyril.
Je trouve que là on s'éloigne du débat parce que là on est en train de faire un débat sur qui a raison ou pas, Gaza, Israël. Le débat est pas là. Le débat c'est il y a un délit qui a été créé qui est pas vieux.
Apologie du terrorisme a été créé par François Hollande
en 2014.
Oui.
C'est récent. On était en plein contexte terroriste. Et à l'époque, certains avaient dit attention danger, l'enfer est pavé de bonnes intentions et on pourra détourner son usage et le détournement de son usage avait déjà été pointé. Et on est en plein dedans, c'est-à-dire que
Olivier,
laissez-moi terminer, parce que sinon moi je m'en vais. C'est avec vous qui parlez.
Oh, ça va.
En fait, on est en plein dedans. C'est-à-dire que là, on est en train de faire un débat très intéressant. Mais donc la justice n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est dans le cadre d'un débat qu'on doit mettre Mathilde Panot face à ses contradictions, face à ses ambiguïtés. Mais c'est pas le commissaire de police ni la justice qui doit trancher ça. Mais sinon, pardon, le débat politique il est mort en France.
Et en plus,
mais je suis pas d'accord avec toi, Olivier, parce que Mera et Kouachi, ils sont nourris.
Quel est le rapport de Mera et Kouachi
leur genèse, c'est aussi un discours ambiant qui dit que la société française elle est raciste, qui dit que la société française, enfin voilà, et à un moment donné ce débat politique que porte Mathilde Panot.
Kouachi Mera, c'est des idéologues islamistes, c'est le salafisme qui est un danger, c'est pas la France insoumise.
Quand t'as pignon sur rue et que tu peux distiller en toute impunité ce discours-là, je suis désolé, ça crée du terrorisme.
Contredis-le par les idées, pas en convoquant dans un commissariat.
Pas d'accord avec toi, faut mettre des lignes rouges.
Qui sera convoqué dans un commissariat.
Faut mettre des lignes rouges, quoi.
Je suis désolé,
c'est possible.
Mathilde Panot, chaque fois qu'elle a été invitée, soit le dimanche dans votre émission, vous savez, les trucs de débat, là, avec Monsieur Duhamel, que j'adore. Non, je rigole. Elle s'est expliquée, je suis désolé, il y a eu débat.
Mais à un moment donné, ça peut être qualifié comme apologie du terrorisme.
Mais en quoi c'est de l'apologie terroriste? Sincèrement, je ne vois pas dans le communiqué.
En plus, c'était des gamins de l'aide sociale à l'enfance. On s'est mal occupé d'eux. Ben si, c'est un truc
Mais je reprends le communiqué.
On reprend la judiciarisation, on reprend, il a raison. Moi, je peux partager l'opinion d'Olivier.
Ils ne disent pas bravo la
masse. Non, mais là où il y a une frontière, c'est que je peux partager l'opinion d'Olivier où c'est vrai. On peut s'interroger sur la judiciarisation d'un certain nombre de phénomènes. Il n'empêche que...
Elle peut s'en tourner contre n'importe qui.
D'abord, ça les victimise, et c'est vrai que je me pose la question si c'est une bonne solution. Il n'empêche que, pour répondre à Cyril qui est parti, mais qui, j'espère, nous écoute, il n'empêche que le sujet de la Palestine, contrairement à d'autres sujets extrêmement importants et tous les mensonges racontés, le sujet de la Palestine les occupe à quasiment 100%.
Oui,
on peut s'interroger.
Ça, on peut non,
débattre. Mais, non, mais le problème,
mais c'est de la politique,
non, mais,
ça.
Non, mais le problème, mais c'est les conséquences.
C'est une stratégie politique.
Non, mais vous vous rendez pas compte des conséquences de l'antisémitisme que ça distille et le danger que c'est pour certains. Il est là, en fait. C'est qu'à un moment donné.
L'antisémitisme, il déjà, c'est
mais
pas
c'est
la
pire aujourd'hui. C'est, depuis le 7 octobre, c'est pire. C'est pire. C'est pire.
Mais oui.
C'est pire.
Mais on s'y là comme ça.
Mais oui.
Pour Cyril, retourner Cyril.
Donc aujourd'hui, on nous explique que si Netanyahou part, eh ben, ça règle le problème. Mais non.
Mais ça, c'est du débat politique,
mais
encore
oui.
une fois.
Oui, oui.
Et pareil,
ça, oui.
le fait de
ça, mettre... oui, mais faire un communiqué comme elle l'a non, fait, ça l'est
de,
plus.
Le fait de mettre sur une liste une activiste franco-palestinienne, c'est un pari politique. Ils veulent récupérer les voix des musulmans et ils veulent faire de cette campagne européenne la campagne du conflit israélo-palestinien. C'est une stratégie politique. On peut en débattre. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'apologie du terrorisme. On peut trouver ça.
Ça contribue quand même à créer un climat.
Pour l'instant,
qui...
ça fonctionne pas. Parce alors, décolle pas dans les
alors,
sondages,
alors hein. tu me donnes une idée. Aujourd'hui, on reproche au RN d'utiliser l'immigration et les migrants à des fins de stratégie politique.
Ah oui.
Et du coup, ça distille dans la société. Certains disent que ça distille dans la société du racisme et du rejet. Attends, et du rejet. Donc la stratégie est exactement la même. La même, et qu'à partir du moment où tu considères que le Hamas est une organisation terroriste, tu n'as pas à en faire la promotion sous couvert de débats politiques.
Parce que ça s'appelle de l'apologie du
donc
terrorisme.
On ne considère
pas
RN.
Parce que Mathilde Panot ne considère pas le Hamas comme une organisation terroriste.
Mais voilà, ça c'est, eh ben ça d'accord. c'est de l'apologie du terrorisme.
Non, parce qu'il y a, bah
si,
pays,
je suis désolé.
Il y a plein de pays dans le monde qui ne reconnaissent pas le Hamas comme une organisation terroriste.
Dire que le Hamas est une armée régulière et faire un communiqué de presse comme quoi le Hamas est une armée régulière, pour moi, c'est de l'apologie du terrorisme.
Tu ne votes pas pour elle, voilà.
Après Cyril,
ou alors elle a le droit de passer devant un juge.
Le débat,
ça changera
pour apologie du terrorisme.
Résumons, le débat politique est aujourd'hui, du côté du RN, tu as le droit de prendre les migrants pour bouc émissaire, pour distiller du racisme, mais tu y es pour rien. Et de l'autre côté, tu as le droit de prendre le conflit israélo-palestinien pour distiller de l'antisémitisme.
Tu as le droit de dire qu'il y a trop d'immigration en France.
Oui, bien sûr.
Alors, si tu n'as plus le droit de le dire, donc tu n'auras plus le droit de dire. Zohra Bitton, la loi selon Bitton. Donc, tu n'as plus le droit d'être du côté des Palestiniens, tu n'as plus le droit de dire qu'il y a trop d'immigration.
Non, mais est-ce que j'ai dit les conséquences que ça a?
Qui va donner la bonne pensée?
J'ai pas dit
non,
que
non, mais c'est pas une histoire de pensée.
Bah si, c'est il faut
bon, bah écoute, quand
c'est quoi la pensée
quand
juste
tu,
alors
quand tu des migrants ou quand tu des juifs pour des raisons de
idéologique.
Parce que certains ont distillé
des migrants en France.
Oui, non mais
qui tue des migrants?
Bah oui, mais on tue des juifs. Excuse-moi, ça arrive.
Oui, oui.
Donc ça veut dire qu'il y a un vrai danger.
Oui.
Donc
dire qu'il y a une idéologie qui pénètre la société.
La seule chose où je rejoins Olivier, c'est qu'effectivement la judiciarisation répondra pas au problème. Mais n'empêche que tu ne peux pas d'un côté.
Des lois contre l'antisémitisme et visiblement ça n'a pas fait reculer l'antisémitisme.
Sauf que là, la question est de savoir s'il y a apologie du terrorisme ou pas. L'apologie du terrorisme telle qu'il est définie aujourd'hui par la loi, c'est la provocation directe au terrorisme sont des délits. L'apologie du terrorisme consiste à présenter ou à commenter favorablement des actes terroristes. La provocation directe au terrorisme et l'incitation à commettre des actes terroristes, toute personne peut signaler aux forces de l'ordre.
Commenter favorablement.
Donc là, et ça se
le
regarde.
Tout est de savoir si Madame Panot.
Le tout est de savoir si donc si dans son communiqué, Madame Panot tombe sous le coup de la loi et si elle a présenté ou commenté favorablement des actes terroristes.
Ça me paraît
avec
clair.
Ce communiqué.
Voilà. Mais je vous préviens.
Non, mais j'entends ton avis.
Anaël, bonjour.
J'entends ton avis, Olivier, sur le fait que le judiciariser, ça change rien.
Anaël, bonjour.
Mais c'est pas le mien d'avis, quoi. Hein.
Alors,
à un moment donné, ça fixe une ligne rouge, quoi.
Alors, est-ce que cette convocation est justifiée? Est-ce que c'est de l'apologie du terrorisme, Anaël? Est-ce que, dites-nous.
Eh ben, quelle est la définition du terrorisme? Le terrorisme, c'est utilisation de la violence systématique pour arriver à son but. Le Hamas a une méthode de si on peut dire de travail, je suis même pas sûr qu'on puisse dire ça, mais de la violence, l'apologie de la violence, donc du coup c'est une organisation terroriste. À partir du moment où c'est une organisation terroriste, ben, une personne qui justifie ou qui dit que les actes du Hamas sont légitimes. Et que c'est une organisation d'État.
On a pas dit ça.
Qui respecte les règles de la guerre, hein, si je puis dire, et ben c'est elle mérite d'être condamnée pour apologie du terrorisme.
Donc c'est normal de convoquer Madame Panot au commissariat.
Mais totalement, c'est de l'apologie du terrorisme. Et puis surtout qu'en France on est dans un climat anxiogène, on est dans un climat qui peut s'embraser à tout moment parce que c'est un sujet qui divise et qui passionne les Français. et avec la situation actuelle où on est sous des risques d'attentat, où c'est compliqué, où tout le monde a peur, etc., de faire l'apologie d'une organisation terroriste, j'ai peur que ça arrive et que ça déborde sur des violences.
Il faudra prouver que ce communiqué fait l'apologie du terrorisme, et je pense que il sera impossible de le prouver. Je pense que Mathilde Panot en sortira libre et victimisée.
Mais c'est possible.
En fait, ceux qui veulent la faire taire vont au contraire victimiser à quelques semaines des élections européennes Mathilde Panot. À mon avis, ça va faire l'effet contraire. Mais bon.
C'est vrai.
Mais c'est possible, mais ça se regarde. Allez-y.
Après, on est dans un moment de l'histoire où j'ai l'impression que on peut tout dire sans forcément avoir de grosses conséquences, sans être poursuivi. Et c'est ça qui est dramatique.
Vous n'êtes pas obligé de voter pour les insoumis.
Non, mais vous voyez, tout le paradoxe, Anaël, tout le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, Madame Panot se retrouve convoquée, justifiée ou pas, on verra ce qui ressort, comme le disait Olivier, quand elle sera du commissariat. En revanche, quand vous lisez Twitter, l'apologie du terrorisme, là, vous en avez vraiment.
Ah oui.
Vous avez de l'apologie de la haine, vous avez de l'apologie. Et là, personne n'est convoqué.
C'est bien là le problème.
Donc c'est tout le paradoxe aujourd'hui.
Si, vous ne savez pas.
Zora, alors c'est epsilonesque.
Non, il y a pas mal de gens convoqués. D'ailleurs, il y a des organisations qui s'en occupent. Il y a eu beaucoup de plaintes de déposer. Il y a eu des propos très explicites.
Tous les jours.
Ah oui,
tous les jours. Zora, t'es pas plus choqué par le mot génocide? Moi, pardon, si on devait faire la police des mots, puisque on fait un peu ça en ce moment, ça serait le mot génocide.
Bien sûr.
Là, parce que là, pour le coup, factuellement, quand la France Insoumise dit c'est un génocide qui se passe à Gaza, là c'est un gros mensonge et c'est une insulte à tous ceux qui ont été victimes de génocide dans le monde, que ce soit le Rwanda,
On dit
la Shoah,
bien que...
ou le Cambodge.
Peut-être que Mathilde Panot est convoquée aussi pour l'ensemble de son œuvre.
Ils vont jusqu'à dire que c'est une Shoah.
À la limite, le génocide me choque plus. Moi, génocide,
c'est fini.
Regardons, merci à Cyril et merci à Naël d'avoir été avec nous. Résultat final, Mathilde Panot convoquée pour apologie du terrorisme. Madame Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est justifié, oui ou non? Alors, non pour Olivier et Elina, oui pour Didier et Zora. C'est un oui, c'est justifié à 73%. voilà, résultat sans ambiguïté. Vous entendez la petite musique qui résonne, les amis? Cette petite musique, c'est pour vous signaler que après-demain, 26 avril, l'un ou l'une d'entre vous pourra gratter, c'est le retour des tickets RMC, pourra gratter un ticket et peut-être gagner jusqu'à 26 000 euros. Et oui, on ne sera pas vendredi 13, vendredi 26. Donc 2 fois 13, 26, on fait gagner 26 000 euros. Donc si vous voulez gagner jusqu'à 26 000 euros, vous m'envoyez chance par SMS au 732-16, chance par SMS au 732-16. À vous de vous inscrire. Tirage au sort vendredi. L'un d'entre vous me demandera de choisir un ticket. Il y aura peut-être 26 000 euros à la clé. Allez, suite des GG dans un instant pour parler de ce jeune de 14 ans qui a mis 4 baffes à l'enseignant à Toulouse et qui a même dit sur les réseaux sociaux qu'il voulait le fumer. Et bref, ça s'appelle une menace de mort. À tout de suite.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, c'est tous les jours, c'est avec vous. Si vous avez raté les GG, vous avez les podcasts à votre disposition sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Vous avez aussi les réseaux sociaux, vous avez les tweets qui sont mis en ligne depuis le début de l'émission avec les vidéos des différentes interventions, que ce soit Elina Dumont, Didier Giraud ou encore Zora Bitton aujourd'hui. On a commencé cette émission en parlant de la responsabilité des parents de regarder les portables des enfants. C'est ce que souhaite Madame Agresti-Roubache pour que l'autorité reprenne la main. Mais on va terminer le show des GG justement en évoquant le problème de l'école, de la violence d'un jeune contre un professeur. Et ça s'est passé à Toulouse.
Ok, regarde TikTok.
Les grandes gueules.
C'est un enseignant du collège Bellevue qui a été giflé par un de ses élèves. Ça s'est passé avant-hier en fin de matinée. Le professeur et le chef d'établissement ont porté plainte. Le recteur de l'Académie de Toulouse, monsieur Mostafa Fourar, est intervenu personnellement avec la police. Et voilà ce qu'il en disait, monsieur le recteur.
J'ai trouvé un professeur très affecté, très choqué, avec une blessure au visage, avec des lunettes qui sont cassées, mais avec beaucoup de dignité, parce qu'il n'a pas réagi de manière violente contre cet élève qui était violent. D'un côté, on a un élève qui a été violent, de l'autre côté, on a un professeur qui était d'une grande dignité et des élèves qui ont su réagir. Ce sont ces élèves-là qui sont allés aussi avertir le chef d'établissement.
Voilà, l'élève a giflé 4 fois son professeur qui lui demandait simplement de se tenir correctement en cours. Oui, mais... Et ensuite, il a publié une vidéo sur TikTok pour se vanter de ce qu'il avait fait.
C'est peut-être même ce qui est le plus choquant encore, c'est que non seulement il gifle 4 fois son professeur, mais en plus, il n'y a aucun regret, aucun remords. Puisque derrière, il va froidement publier, enfin en tout cas se publier la vidéo sur TikTok. Donc c'est filmé par qui, on ne sait pas, il faudra voir, un complice. Et il s'en vante. Donc il est poursuivi pour violence et menace de mort. On verra. Le problème c'est qu'il a 14 ans. Donc excuse de minorité. Il n'ira pas en prison. Il sera pas jugé tout de suite. Il sera donc là, il va être présenté à un juge pour enfants aujourd'hui, et ensuite on
verra. Il a pas d'antécédent judiciaire. Hein,
il a 14 ans. En même temps, il n'a pas non plus. En revanche, le prof de technologie est blessé. Il a écopé 2 jours d'incapacité totale de travail et une cellule d'écoute, bien sûr, a été mise en place. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ces gamins-là?
32-16 pour en discuter.
La méthode Giro. Alors, que le prof ait le droit de se défendre. Sans emmerdement derrière, que le prof ait le droit de se défendre sans être embêté derrière, et que ça moufte pas au rectorat. 2, première condamnation exemplaire. Voilà, 14 ans, ce genre de fait, en plus tu l'assumes, tu le revendiques, condamnation exemplaire, réhabilitation par le travail, travaux forcés, pas 50 solutions, des travaux d'intérêt général avec du travail physique. Il n'y a pas 50 solutions. Alors, du sport, peut-être, à cet âge-là, mais du travail. À un moment donné, 14 ans, droit de minorité, machin, rien à foutre. Première condamnation, elle doit être exemplaire, assortie avec du travail physique. Il n'y a que comme ça que ça rentre dans la tête, quoi. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Et puis après, si un prof doit se défendre dans ce genre de cas, qu'il ne soit pas embêté, c'est tout ce que je demande. Mais enfin, pour moi, c'est un cas d'école, ouais, et rien ne va se passer comme je dis. Rien ne va se passer comme je dis.
On a des adultes qui ont peur des enfants.
Mais en fait, c'est ça, la peur change de camp. En fait, c'est ça le drame. C'est qu'on est dans une société où les adultes ont peur des enfants et où les adultes ont peur de la sanction d'autres adultes s'ils disent quelque chose aux enfants. C'est ça qui est assez hallucinant, c'est-à-dire que les ados ont pris le pouvoir. Regardez le débat qu'on a eu tout à l'heure. On a eu tout à l'heure le débat de la liberté de l'enfant, de son intimité, de son droit à disposer de sa vie à 11 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans.
Je rentre
à 22 heures, je fais ce que je veux. Attends, je rentre à 22 heures, c'est ma vie. J'étais avec mon petit copain en bas. Pourquoi tu me dis quelque chose? Je vais appeler le numéro vert. Voilà, ça c'est la nouvelle société. Et de l'autre côté, on a une société qui dit il faut restaurer l'autorité parentale, il faut redonner le pouvoir aux parents, il faut réhabiliter le parent dans son rôle et sa responsabilité. Vous voulez quoi les gens là? Vous voulez la liberté 100 000%, et donc tu mets 2 tartes ou 4 tartes à un enseignant et il se passe rien, parce que tu comprends, peut-être que si l'enseignant avait réagi et s'il avait, comme dit Didier, s'il s'était rebellé, parce que les mômes ils sont parfois plus grands que les enseignants, ils sont même plus balèzes que les enseignants.
Bien sûr.
Eh ben si il se passe quoi? T'as un gosse de 14 ans qui fait 1m80, qui te massacre. T'es enseignant, t'as 50 ans, t'as 45 ans, tu fais 1m75, t'es pas forcément un colosse, et tu te fais défoncer. Imagine, tu te défends, tu laisses pas ce gosse te massacrer. Eh ben qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui vas avoir des problèmes. C'est le monde à l'envers, dont on ne fouille pas dans les téléphones de nos enfants. On ne surveille pas les fréquentations qu'ils ont. Attends. On ne dit rien lorsqu'ils rentrent tard, parce que tu comprends, c'est leur liberté. On a interdiction de leur mettre une fessée ou de leur crier dessus, parce que tu comprends, quand tu leur cries dessus, psychologiquement, ça peut les perturber. Vous êtes chez les fous, là. Les jeunes, ils sont en train de prendre le pouvoir et ils le savent.
Alors justement, Elisa, toi, qu'est-ce qui peut passer par la tête d'un gosse de 14 ans de se lever? C'est l'impunité. D'aller vers son professeur et lui mettre 4 balles.
C'est un psychopathe.
Zora, je vais te dire, ce gamin-là,
il y a toujours une raison.
Attends. Elina, vas-y.
Ce gamin-là, il n'est pas devenu violent ce jour-là. Hein. Il était violent bien avant. Et forcément que la violence, elle est au sein de la famille.
Mais évidemment.
Parce que quand t'es gamin, tu fais
du mimétisme.
Du mimétisme.
Mais il y a quelqu'un qui doit dire stop à un moment donné.
Eh ben oui, mais là, quand tu parles, tu dis eh oui, on peut pas fouiller dans le portable. Mais là, c'est des parents. Tu parles, peut-être ils se prennent.
Mais ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement quelque part.
Peut-être que les parents ont les mêmes problèmes avec ce gamin-là.
Tous les gamins que je rencontre qui sont violents à l'extérieur, quand tu fais l'enquête.
Oui, mais ça, c'est vrai.
La violence, elle existe.
C'est vrai. Donc, à quel moment, dans la chaîne éducative qui va des parents en passant par l'école et le périscolaire, à quel moment il y a quelqu'un dans ce pays, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion qui va détecter cette violence et qui va mettre en place les dispositifs pour pas que ça arrive?
Il était déjà repéré, ce gamin.
Je pense que...
je suis ravie qu'il aille. Moi, je connais bien, j'ai été moi-même sous tutelle de juge et je suis ravie qu'un juge va le prendre en main. À mon avis, il va se retrouver dans un centre. Attends.
Un centre éducatif fermé?
Ouais, mais fermé.
Qui s'évadera le lendemain?
Non. Je voudrais te dire un truc. Par contre, il y a des activités physiques, hein, des fois.
Mais le travail, il y a que ça.
Mais ça, c'est vrai.
À 14 ans, je suis désolé, tu peux aller désherber des légumes.
Alors là, c'est le paradoxe, Didier. Non.
T'as pas le droit.
Parce que le gars, il gifle un prof. 4 fois. Il se vante. Et d'ailleurs, il va se retrouver en plein air à faire quoi? À désherber? Est-ce que tu crois que c'est une vraie sanction, ça?
Je crois du travail d'intérêt général, tu vas aller ramasser des détritus en bord de rivière.
Il va dire à ses potes, les gars, c'est bon, j'ai ramassé pendant 10 jours des détritus, je m'en fous.
Ah non, mais c'est pas 10 jours, là. C'est 6 mois, là.
Il prendra pas six mois à ramasser des détritus.
Mais tu vois, par rapport à ton exposé, Elina, je pense aussi que quand tu dis ce gamin-là, il y a forcément de la violence derrière. Je pense qu'on a créé cette société-là en voulant protéger ce gamin, quoi. Quand on rentre dans la tête des gens et quand on fait des lois pour dire les gamins, on peut plus leur mettre une fessée dans le cadre familial.
Pourtant, il y en a
pour protéger ces gamins-là, mais ça se retourne contre eux, quoi. Parce qu'à un moment donné, à trop vouloir légiférer, alors entre guillemets, la violence qu'il peut y avoir dans le cadre familial, parce qu'il y a des endroits où la violence, elle est abusée.
C'est vrai.
À trop vouloir s'occuper de ça, légiférer ça, on a aussi ôter à des parents qui étaient plutôt responsables et qui pouvaient utiliser la violence, entre guillemets, à des fins pédagogiques, à trop rentrer là-dedans, on leur a enlevé les moyens de se faire respecter.
En fait, ce qui se passe, c'est que on a démantelé depuis des années tout un système de signalement et de prévention. À l'intérieur des écoles, avant, on avait des assistants sociaux qui étaient capables de détecter un gamin de 4 ans qui tape, qui étaient capables de rentrer dans les familles pour aller vérifier
les médecins scolaires, les infirmières, etc.
Tous ces acteurs locaux de la prévention et de l'éducation ont été démantelés et on retrouve aujourd'hui des pauvres enseignants confrontés à une jeunesse dont ils ne comprennent plus à la fois la violence, à la fois le mode de vie, à la fois les codes sociaux et à la fois cette espèce de d'enfant roi dans lequel ils ont baigné. Donc ça veut dire que je pense que un enfant, lorsqu'il est victime de violences au sein des familles...
Non, mais il y aura toujours une explication. Mais là, bien sûr, si on revient au geste...
Il faut punir.
Si le professeur...
Mais oui, il peut plus...
...avait mis une gifle à la François Bayrou. Souvenez de François Bayrou.
Il est convoqué.
Il y a un petit jeune qui lui pique son portefeuille, il lui fait une gifle. Il avait pris 10 points dans les sondages, tout le monde l'avait applaudi.
Il est convoqué.
Oui, mais si le prof avait foutu une gifle, l'opinion publique aurait dit, très bien, ce gamin en a pris une.
L'opinion publique, peut-être que le père va le défoncer le soir à la sortie.
Voilà, et le rectorat, c'est là où on a un problème, quoi. Le rectorat aurait sanctionné le professeur.
Même pas sûr.
Ah mais si, parce que quand t'es enseignant...
En fait, ce que les gens ne supportent plus, c'est le manque de réaction. On a l'impression que pour
l'enfant
ce gamin,
roi,
il va rien se passer. Comme il a 4 ans.
Non mais t'as raison, Olivier, l'opinion publique ne supporte plus, mais concrètement, pour ce prof, il serait passé quoi?
Non mais
tout le monde l'aurait applaudi.
Il aurait été convoqué.
C'est paradoxal parce que on parle d'une société où on ne peut plus crier, on ne peut plus taper et on parle de liberté individuelle et d'intimité et de protection, de sanctuarisation de la vie d'un enfant et d'un adolescent. Très bien, d'accord. Mais à quel moment il y a quelqu'un qui pose des règles et depuis quand les règles sont une violation de la vie privée d'un enfant?
On a oublié un truc essentiel, c'est que éduquer un enfant, c'est dire non.
On est d'accord.
Éduquer un enfant, c'est lui dire non, lui expliquer pourquoi.
On est d'accord.
Et même s'il comprend pas, lui dire non. Et c'est pas dire oui. Et le problème, c'est qu'on a basculé.
C'est la faute à François Zolto.
Ceux qui ont trop lu François Zolto.
Tu sais, quand je fais mes ateliers théâtre, donc j'ai des filles et des garçons, c'est des primaires, souvent jusqu'au CM2, évidemment. Et ben, je vois comment ils sont élevés, les gamins. Tu vois les filles, toutes gentilles, voire soumises. Et tu vois l'éducation des les garçons, oui. Comment ils parlent. Bon, sauf qu'avec moi, moi, je n'ai rien à foutre.
Ouais, les garçons,
je cache pas.
Tu colles des tartes,
moi, je
tu pourrais coller des tartes,
moi, je m'en fous, je travaille pas à l'éducation nationale. Hein. Je suis intervenant.
Parce que les garçons
extérieur.
Font les petits rois dans leur
famille. Voilà. Les garçons, et eux, oui.
Le père
tu verrais
là.
Comment ils crachent sur
les c'est les mères qui font des rois.
Tu verrais comment ils me parlent, ils me traitent de tous les noms.
C'est-à-dire, comment ça, comment ils parlent.
Des mots, voilà, c'est des gros mots.
Quel âge ils ont?
Ouais, du 8-9 ans.
Jusqu'au CM2, elle dit.
8-9 ans, t'imagines.
Et moi, je les prends par le callback, et chaque fois, le directeur m'a dit, bon, Elina, je fais comme si j'avais rien vu. Mais moi, je travaille pas à l'éducation nationale.
Mais bien sûr, mais bien sûr.
Mais si je fais
comment
pas
ils
ça.
Réagissent quand tu les attrapes, justement?
Ah, ils disent pas que quand ils ont ça plus les pieds qui touchent le sol, ils commencent à avoir peur quand même, hein.
Mais voilà.
Et je lui dis, vas-y, répète. Et après, tu vois, petit gamin. Ah oui, d'ailleurs, il s'est passé un truc, là, dernièrement, qui a super bien marché. Il y a un gamin, il a dit à sa prof, ouais, je m'en fous, t'as qu'à appeler la police. Là, qu'est-ce qu'elle a fait la prof? Elle a appelé la police. Oh putain, le gamin, comment il a flippé. Il a dit, alors on est là. Et le gamin, il est reparti. Et la prof, elle a dit que ça valait 1000 cols.
Mais et oui, on va voilà. Continuer d'en parler avec vous. Avec ce qui, s'est passé, à Toulouse, cet élève qui a giflé son professeur 4 fois. Il a même publié une vidéo sur les réseaux sociaux, sur TikTok, pour s'en vanter en disant je vais te fumer. Pas d'antécédent judiciaire. Il présentait un juge pour enfants aujourd'hui, mercredi. Question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de lui. Voilà, travaux forcés en plein air, dit l'ami Didier Giraud. Est-ce que c'est
il y a de quoi
que c'est la solution l'enseignant lui laisser le droit de répliquer sans qu'il soit ennuyé. 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Zora Habitant, cadre de la fonction publique. Nous sommes avec Didier Giraud, qui est agriculteur en Saône-et-Loire. Elina Dumont, intervenante sociale, et on discute de ce qui s'est passé à Toulouse. L'enseignant du collège Bellevue qui s'est fait gifler par un enfant de 14 ans. L'enfant a été interpellé, placé en garde à vue. Je dis enfant parce qu'à 14 ans, t'es un enfant, quand même. T'es un adolescent, mais t'es un enfant.
Et il sera, mais c'est un enfant,
oui. Et il sera présenté à un juge pour enfants aujourd'hui. Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Nathalie. Vous êtes enseignante et vous vouliez témoigner, vous aussi, dans notre discussion. Pourquoi, Nathalie? Dites-nous.
Eh bien, enfin, enseignante en burn-out, à l'heure actuelle, donc en arrêt maladie. Parce que à écouter, enfin je vous écoute, hein, collégien, mais ça commence très petit. Moi, je suis dans une école de cité, donc c'est des quartiers difficiles. Il y a des mignons, ça, il n'y a pas de problème, mais il y a des élèves qui sont de pire en pire. Et garçons ou filles, il n'y a pas de différence en fait. Les filles sont même des fois plus pires que les garçons.
Vous êtes en collège, Nathalie ?
Non, en école.
En école.
En école et... primaire.
Et alors, donnez-nous des exemples précis, justement, alors.
Oh, bah, c'est...
des insultes, des gestes
des, insultes, gestes, des... le truc, c'est qu'en école, il n'y a pas de conseil de discipline, il n'y a rien. Donc, ils le savent très bien. Donc, ça vous avez beau les gronder, c'est parce que ça a menacé un enfant, ça a tapé, ça... Voilà. De toute façon, tu peux rien faire. C'est ce que j'ai eu. Hein. De toute façon, tu ne peux strictement rien me faire.
En vous tutoyant, c'est-à-dire un enfant d'école élémentaire vous tutoie en vous disant tu ne peux rien me faire, c'est ça?
Bien sûr, bah bien sûr. Et le truc, c'est que même si vous voulez parler aux parents, bah, les parents sont dans... Comment dire? Bah, ils soutiennent leur enfant, en fait.
C'est au soutien.
Soit vous avez dû faire quelque chose et voilà, ou alors c'est pas possible, mon enfant il est pas comme ça.
À quel genre de situation insupportable vous avez affaire?
Ça fait sept ans que je suis enseignante, mais rien qu'en 7 ans, moi j'ai vu la différence.
Hein. Enfin,
je vois, c'est de pire en pire. Et puis vous avez beau essayer de lancer des alarmes, des feuilles d'incident, on en faisait toutes les semaines, vous avez aucune.
Vous avez entendu Nathalie les annonces de Gabriel Attal? Qui dit que, par exemple, il faut que la mention fauteur de troubles suive l'élève, soit même sur son dossier Parcoursup, parce que ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner.
Oui, bon, ça va suivre, mais en même temps, on le fait déjà. On le fait déjà. Rien que des élèves de CM2 qui passent en 6e, le collège sait à quel élève il va avoir affaire. Mais après, ça change rien.
Ouais, mais bah, si attends. Je vous écoute un peu, Nathalie, en
et
fait,
pourquoi vous êtes en burn-out ?
Vous n'avez pas les moyens. Quand Attal dit il faut rétablir l'autorité, mais en fait vous avez pas les moyens de vous faire respecter tout simplement.
Mais aucun moyen et enfin il y a des parents qui sont dépassés, ça c'est sûr. Donc mais le souci c'est qu'on a rien.
Est-ce que l'institution vous soutient ?
Alors quand ça dégénère fortement, oui, mais ça dure pas.
Non mais Nathalie,
ça va être sur le coup et puis après voilà, on vous dit que si vos élèves n'y arrivent pas, c'est pas la faute des parents, c'est pas la faute des enfants, c'est de votre faute.
Non mais Nathalie, un truc que je comprends pas, parce qu'apparemment vous dites que vous occupez des primaires.
Oui.
Et pour ma part, bon parce que ça m'est arrivé aussi d'avoir vraiment un cancre dans mon atelier théâtre, je pouvais pas faire atelier, mais par contre le directeur, il allait tout de suite chez le directeur quand même.
Alors,
pour ma part,
oui, bah le directeur. Le problème, c'est que je suis dans une grosse structure, donc le directeur, il est par Mons et par Vaud, et il va y rester 10 minutes, et puis il va me renvoyer l'élève.
Ah non, moi il me le renvoyait pas, par contre.
Oui, mais ce qui est étonnant, Nathalie, c'est que vous-même à cet âge-là, vous soyez confrontée à cette violence, c'est-à-dire verbale et même dans les gestes.
À 8-9 ans.
C'est ça, à 8-9 ans, 10 ans.
Moi, je me suis déjà vue à essayer de retenir une élève hystérique. Il n'y avait pas d'autre mot parce que elle cherchait d'autres enfants et que arrive un moment, un jour l'élève. Qu'elle embêtait, à péter les plombs. Donc voilà, elle lui a donné un coup de pied et elle est devenue hystérique et on était à deux enseignants pour la retenir.
Quel est le profil type des perturbateurs ?
Vous avez tout. Enfin, vous avez des violents. Le problème, c'est que dans une classe.
Par exemple, quand vous convoquez les parents, est-ce que les parents viennent ? Est-ce que les parents
pas
sont
toujours.
Présents ?
Non, pas toujours. Ça,
moi, rien que pour la remise des livrets, sur 25 élèves, si j'en ai 10, je suis contente.
Et d'ailleurs,
vous êtes dans un quartier compliqué et difficile ?
Oui.
Où est-ce que vous êtes, Nathalie ?
Je mettrais ça. Tu viens pas au conseil de classe, tu viens pas au livret, tu viens pas aux convocations de l'enseignant, puis d'alloc. Enfin, faut arrêter de déconner là, c'est plus possible. Non mais vous vous rendez compte que repose sur des enseignants, l'instruction, l'éducation, la lutte contre la violence, le recadrage, et en plus les parents ils viennent pas, et quand ils viennent c'est la faute de l'enseignant, et l'institution demande à l'enseignant de faire moins de bruit. Non mais excusez-moi, mais au bout d'un moment il va falloir s'arrêter, il va falloir remettre l'église au milieu du village et dire aux parents stop, c'est simple, quand vous venez pas au bout de la 3e convocation, eh ben il y a plus d'alloc. Là ça va rappliquer direct, parce que ce n'est pas normal que cette enseignante qui a 25 élèves en a que 10 aux remises délivrées, et ce n'est pas normal que cette enseignante livrée à elle-même signale des choses et qu'au bout de 10 minutes on a l'impression de lui coller un pansement et de retourner au charbon, c'est plus possible. Il va y avoir de moins en moins d'enseignants, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont mettre leurs enfants dans le privé, et les inégalités vont se creuser et la violence va se multiplier. Donc c'est pas de l'autorité qu'il faut mettre. Moi je pense qu'il faut resoutenir les enseignants, remettre du personnel dans les établissements scolaires pour aider ces enseignants, et surtout que Gabriel Attal donne la consigne au rectorat et aux équipes de direction de chaque établissement qu'il faut soutenir les enseignants et que c'est la parole de l'enseignant qui compte et pas celui de l'enfant ou des parents.
Mais à un moment donné, Zora, il faut foutre les parents dehors de l'école aussi, quoi.
Ah, mais d'accord avec toi.
Quand tu ne sais pas ce que c'est que l'autorité dans ta maison. Mais tu sais pas ce qu'elle est de.
Ah oui. Mais justement, tu pointes un problème, Elina. Tu dis que dans les familles, il y a un problème d'autorité.
Ah oui.
Et en plus, l'école, on lui demande de le combler sans lui donner les moyens et en méprisant les enseignants. Mais c'est encore pire.
Nathalie, parce que vous disiez que vous étiez dans un coin difficile. Je peux vous demander où est-ce que vous êtes, précisément?
Je vous dirai dans les Yvelines.
D'accord, voilà. Dans les îles, mais dans une grosse structure.
Elle dit oui.
Une grosse
structure. Oui.
D'accord, oui. Merci Nathalie.
Non mais courage Nathalie, courage, parce que
merci. Burnout jusqu'à.
On arrive
jusqu'à
maladie là.
Burnout pendant combien de temps Nathalie?
Jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais là je suis en fait, c'est pas. Je suis en plein reclassement. Honnêtement, je
voulais changer, vous voulez changer,
vous voulez partir.
Voilà, fuir, voilà. Non, mais ça veut tout dire.
Voilà.
Donc voilà,
c'est pas les enfants. Honnêtement, c'est pas les enfants. Ça peut être difficile, mais c'est gérable, même si avec tout ce qu'on nous met maintenant, parce que on a des élèves handicapés, on a des élèves avec des troubles, enfin voilà, on a plein, une classe de 25 sur une classe de 25, entre la différenciation pour les élèves en difficulté, les élèves justement à problème violent, enfin voilà, où le respect n'existe plus, et plus les élèves avec des situations de handicap.
Ouais,
c'est encore, honnêtement, c'est encore gérable. Mais les parents, je peux plus, moi, les parents, c'est terminé.
Le problème, c'est les parents.
En fait, les parents sont.
Et voilà, c'est la boule.
Et pourquoi, un enseignant qui se fait taper se défend plus? Bah, c'est par peur des parents,
des années, on était dans la victimisation des parents. Vous comprenez, c'est compliqué pour eux, etc. Toujours bonne raison de les plaindre. Oui. Donc effectivement, on les plaint, les enfants sont des enfants, donc on les punit comme des enfants et on arrive à cette situation.
Je suis pas avocate, mais là, il y aurait eu légitime défense, à mon avis. Hein.
Merci, Nathalie.
Bah, mineur,
c'est bon courage à vous.
On va terminer avec Suzanne, qui est des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour, Suzanne.
Bonjour les GG.
Vous avez entendu le témoignage d'Nathalie, on parle de cet élève de 14 ans. Comment vous réagissez, vous, Nathalie ?
Mais je suis complètement d'accord avec Nathalie et avec Zora. C'est le problème des parents. Les profs n'ont pas à intervenir. Les profs, ils ont un job qui est d'instruire nos enfants. Ça s'arrête là. Après l'éducation, l'autorité, elle est à la maison. Moi, j'ai une fille de 14 ans et demi. Elle a le téléphone depuis la 6e. J'étais contre, mais bon, son père lui a quand même donné un téléphone. Elle a aucun réseau social sur son téléphone. J'ai son code. Elle a un iPad aussi et j'ai son code d'iPad. Je l'amène, je vais la chercher. Je lui demande avec qui sont ses amis. Ça fait partie du job du parent à un moment donné.
Mais Suzanne, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, je suis complètement d'accord avec vous, Suzanne. Mais la réalité, elle est tout autre. Et qu'est-ce qu'on fait pour les enseignants ?
Et même par rapport à moi, je le vois, je suis un peu souvent regardée comme une extraterrestre. Je dois souvent expliquer, me justifier, parce que j'ai un petit peu l'impression à être la seule à faire ce genre de choses. Parce qu'on me dit que je suis une mère intrusive, une mère qui lâche pas sa fille, une mère... Mais ma fille a 14 ans et demi.
Suzanne, vous savez ce que vous devez leur répondre ? Vous savez ce que vous devez leur répondre ? Alors, votre mode
d'emploi...
Non, vous leur répondez, vous leur dites, ok, donc votre technique est bonne, et pourtant, ça marche pas du tout. On a que des problèmes. Donc la preuve, elle est faite par la réalité. C'est que cette technique de liberticide qui fait que les enfants sont rois et les parents puissants, ça marche pas. Donc c'est pas vous l'extraterrestre. En fait, vous faites un truc qui est universel et intemporel et qui existe et qui doit exister partout dans le monde. Quand on a des enfants, on les éduque, on est présent, on regarde, on surveille, on s'inquiète, on protège. Ça, c'est normal. Le reste, c'est pas normal.
Il y a un pays en Europe, je pense que c'est l'Allemagne, d'après, parce que j'avais auditionné l'Allemagne, l'Espagne et tout. Les profs, ils se déplacent carrément chez les parents.
Merci à Suzanne, merci Elina, Suzanne. Didier, Zora d'avoir été avec nous aujourd'hui. Demain, nous serons avec Mourad Boudjela, l'éditeur de bande dessinée, Frédéric Farrel, professeur d'économie. Une nouvelle venue dans la bande, Julie Martinez, elle est juriste, elle est avocate. Et on parlera de l'intelligence artificielle demain avec Laurent Alexandre, l'entrepreneur spécialisé, avec un livre parti pris ChatGPT. Vous savez, c'est l'application de l'intelligence artificielle, va nous rendre immortel. Il va venir développer ça demain dans les GG. Imaginez Estelle Denis immortelle.
Mais elle est déjà immortelle.
Pour moi et pour l'humanité.
Et Robert Sebag immortel.
Il sera avec nous dans un instant avec Daniel Riolo et Lumière l'après. Nous, on va parler, vous savez, de ce préavis de grève qui a été levé du côté des contrôleurs aériens.
Oui,
il y a une grève massive. Plus de grève. Pourquoi ? Parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Comme la SNCF. Est-ce qu'il faut craindre un embrasement avant les JO ? C'est-à-dire que tout le monde va réclamer, parce que quand on réclame, manifestement, on a. On en parle dans un instant dans Estelle Midi. On parlera de cette petite phrase de Giroud qui dit que Mbappé est encore loin de Zidane et de Platini. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et puis la secrétaire d'État Sabrina Agresti-Roubache qui encourage les parents à fouiller dans le téléphone et la chambre de leurs enfants. D'accord ou pas d'accord avec la secrétaire d'État, ça se sera à 14h.
Bonne émission avec Estelle, rendez-vous au 32-16 et nous demain on se retrouve à 9h.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.